L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Si Mara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. infirmières et les aides-soignantes faisaient 12 heures par jour sans sortir du service. Elles mangeaient dans le service. Isolation complète à cause des microbes. Gants. Se laver les mains avec un désinfectant, tablier plastique, etc. Un jour, on a décidé, c'est de me mettre quelque temps dans un fauteuil. Là, je n'aimais pas. Ça me fatiguait beaucoup et j'avais très mal. Mais l'on voulait que je restât le plus longtemps possible. Je tenais le coup, mais je voyais le pied de mon fauteuil s'abaisser. Un jour, j'ai perdu connaissance. Trou noir. Lorsque je me suis réveillé dans mon lit, l'on m'a dit que j'avais perdu connaissance. Des infirmières étaient près de moi. L'infirmière m'a dit qu'elle avait crié pour appeler de l'aide et demandé à mon voisin de sonner pour qu'on vienne l'aider. Elle l'a engueulé parce qu'il ne l'a pas fait. Nous avions une infirmière 24 heures sur 24 pour deux malades, plus une aide-soignante. Les infirmières m'aimaient bien. Et tous les soirs, elles venaient me dire au revoir, et le matin aussi, même celles qui n'étaient pas pour moi. Les jours passaient, tristement, avec mes cordons, mon masque, mes comprimés. Être forcé de manger, même sans appétit. Malgré que je pouvais me lever avec de l'aide et entrer dans mon lit seul, marcher un peu avec un peu d'autonomie, j'avais toujours la peur de faire dans mon lit. La hantise de ne pas avoir ma sonnette à ma portée et l'urinoir, si elle ne pouvait pas venir. Une nuit, j'ai failli devenir fou. La sonnette était trop loin, l'urinoir aussi. Je le voyais sur une table, mais je ne pouvais pas le prendre. On m'avait mis les barreaux à mon lit. Je me suis débranché et essayé de passer par-dessus les barreaux pour prendre l'urinoir. Mais passer, pas assez de force. Je n'y suis pas arrivé. L'envie de pisser était de plus en plus fort. Je pleurais de rage. La porte de ma chambre était fermée. Personne ne pouvait m'entendre. Et tout à coup, j'ai senti avec honte que j'ai uriné dans mon lit. J'ai passé une nuit terrible, de rage. Pourquoi m'avait-on éloigné l'urinoir et la sonnette? Le lendemain matin, j'étais obligé, c'est de dire ce qui m'était arrivé, et n'ont rien dit, et m'ont nettoyé et changé. J'étais honteux. Il y a une chose qu'on nous faisait de temps en temps, c'était nous mettre une tige dans la bouche et l'anus. C'est pour voir si nous n'avions pas pris de microbes à l'hôpital. Là aussi, la honte. Tout ce que l'on me faisait était écrit sur un papier scotché sur un tableau. Température, tension, etc., etc. Et sur un autre papier, ce que je mangeais. Je mangeais très peu et avec dégoût. Maigrissais. Avait toujours mal. Marchait un peu mieux. J'ai eu plusieurs voisins de lit au fil du temps. J'étais devenu le plus ancien. Après l'homme qui savait tout et regardait la télévision dès 6 heures du matin, j'ai eu une femme qui est restée une nuit et une journée, une Asiatique qui ne savait pas le français. Cette femme était en pleine démence, criait, arrachait ses cordons, etc. Elle était dans un autre service, un étage au-dessous. Et comme elle avait perdu connaissance, on la menait ici. perdu connaissance plutôt, perdait la tête. Plusieurs infirmières avaient toutes les peines du monde à la tenir tranquille. Au début, elle lui parlait gentiment. Puis, à la longue, elle lui criait dessus. Ce qui fait, cette pauvre femme, qui voyait des visages qui lui criaient dessus, a dû avoir peur, surtout qu'elle ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Puis les infirmières sont parties. Moi, j'étais dans mon lit, prisonnier de mes cordons. Tout à coup, je vois la pauvre femme essayer de sortir de son lit. Je me mets à crier « Au secours ! Venez vite ! La femme va sortir de son lit !» Les infirmières arrivent. L'on me dit merci et on la remet dans son lit. On fait venir un infirmier asiatique pour expliquer à la femme ce qu'on lui veut, ce qu'on va lui faire. Elle se calme. On lui fait un scanner, rien. Avant de la descendre dans l'autre service, une infirmière a passé toute la journée à la laver, refaire les pansements, laver les cheveux et la maquiller. L'infirmière m'a dit, je fais ça comme si c'était une personne de ma famille. Puis, la femme est descendue. Un troisième voisin de lit. Cette fois, c'était un monsieur qui a été pianiste de l'Opéra de Lyon et répétiteur de chœur. Ce monsieur était discret, gentil. Il avait un petit poste de radio pour écouter discrètement la musique. Il était beaucoup plus malade que moi, en plus des poumons, le corps, etc. Sa femme venait le voir, une personne très énergique qui rangeait et s'informait sur la santé de son mari. Les infirmières riaient parce qu'elle disait que notre chambre était la chambre des intellos, lui avec sa musique et moi avec mes livres. Elle disait qu'ailleurs, ils regardaient tous la télévision et pour voir les dessins animés. Lui et moi, nous entendions bien. Comme j'étais parti en urgence, sans rien amener, je n'avais pas apporté les numéros de téléphone de ma famille et de mes amis. Comme c'était des numéros portables ou liste rouge, je n'ai rien pu faire. Et puis ma famille était en vacances en Corse. Ma famille a réussi à me retrouver en téléphonant aux hôpitaux et cliniques. Une de mes sœurs a demandé au renseignement le numéro de téléphone du Tonkin. On lui a répondu, vous n'avez qu'à regarder sur l'annuaire. Ma sœur lui a dit, vous savez à quoi alors? Les amis inquiets ont cherché à savoir où j'étais. Même une amie a appelé les pompiers pour qu'ils viennent voir si je n'étais pas malade ou mort chez moi. Ils sont passés par le balcon, volets, vitres de la porte-fenêtre à changer. Les vitres, c'est d'où le vitrage. L'assurance me remboursera que la vitre, ce qui fait que j'ai à payer 800 euros de volets à mes frais et 600 euros de vitre à la charge de l'assurance. Mais il faut payer d'avance et attendre des semaines ou peut-être des mois pour être remboursé. Enfin, ils ont réussi à savoir où j'étais par l'intermédiaire d'un ami de la radio qui avait compris que j'étais au Tonkin. J'ai eu de la visite, mes deux sœurs, mon frère, des amis. J'ai demandé qu'on aille chez moi pour prendre des vêtements et le courrier, ce qui a été fait. On m'a apporté même des livres. Les jours passaient et j'allais un peu mieux. Je croyais que j'allais mieux. Après plusieurs radios, scanners, on a décidé, c'est d'essayer de m'enlever le plus de pus possible dans le poumon. On m'a amené au scanner et l'on me faisait des images. Le médecin marquait sur la poitrine le point de repère et avec une aiguille, une seringue je veux dire, il enfonçait sur la poitrine pour enlever du pu. À chaque fois, il regardait le scanner pour la piqûre pendant une heure. Ça durait une heure. Cela m'a soulagé un peu. Puis après quelques jours, le médecin-chef m'a dit qu'il allait me mener dans une maison. J'étais surpris et triste. Je croyais que j'allais rentrer directement chez moi. Les jours passaient et l'on m'a dit que j'irais à Bayer dans le Beaujolais. J'ai prévenu tout le monde. Et un matin, je me suis préparé, habillé, fait mon sac et parti en ambulance avec l'aide respiratoire et couché. Lorsque je suis arrivé à Bayer, je m'attendais à voir un château, comme me l'avait dit un infirmier qui avait fait un stage là-bas. Mais non, c'était une bâtisse blanche, en plein parc, qui ressemble, vu d'avion, à un paquebot. Bayer est un centre médicalisé, spécialisé pour les maladies respiratoires. Il y a des médecins, infirmières, kinés. Les chambres à un lit ou deux lits. On délit comme à l'hôpital. On m'a mis dans une chambre à deux lits. Mais c'était de ma faute. Le médecin m'a dit, « En réa, vous aviez une chambre à un lit. » J'ai dit non, à deux lits. Alors j'ai été mis dans une autre, avec une autre personne. À Bayer, tout est propre, clair, neuf. Dans chaque chambre, il y a des prises sur le mur pour que l'on mette le cordon d'oxygène. Et en plus, pour se déplacer, l'on nous donne une bonbonne portable d'oxygène que l'on doit remplir tous les matins avec sur une grosse bonbonne qui se trouve en salle commune. En réalité, il y avait trois très grosses bonbonnes. J'avais comme emploi du temps, le matin à 8h30, vélo d'appartement qui se faisait au deuxième étage. Nous étions au premier. À 15h, gym. Ceci du lundi au vendredi. Le lundi et le vendredi, en plus, nous avions relaxation. Le repas était petit déjeuner à 7h45 pour ceux qui avaient le vélo à 8h30 et il fallait qu'il soit servi en premier et le prendre dans la salle commune. Le déjeuner à midi et le dîner à 18h. Entre ces emplois du temps, nous étions libres et pouvions nous promener, sortir du parc et marcher. La marche était très conseillée. Je sortais après le vélo, après le repas de midi et après la gym. Une conseillère en diététique m'a dit de bien manger. Elle a donné des ordres pour que j'aie un repas plus nourrissant que les autres. Laitage vitaminé, etc. le matin et à 16h. Pour le déjeuner et le dîner, trois sortes de fromages, viande, une bonne part de viande très grande, à midi et le soir, avec beaucoup de sauce, etc., etc. C'était trop, surtout le soir. Il y avait de la soupe pour ceux qui voulaient. J'en prenais parce qu'elle était très bonne. J'ai au cours de mon séjour de la visite de ma famille, de Jean de la Radio, de Frédéric et d'amis. On m'a téléphoné aussi, très souvent, comme Stéphane. Il fallait faire une demi-heure de vélo par jour. C'était très pénible. On en sortait tous mouillés de transpiration. Le kiné augmentait la puissance des pédales pour qu'on en fasse plus d'efforts. Nous étions contrôlés très souvent pour voir si ça allait. J'ai réussi à faire du 14 km à la demi-heure avec une puissance de 60. Avant de faire du vélo, on nous faisait faire un contrôle de marche. Fallait marcher le plus vite possible, chronométré. Et surveillé par l'oxygène, pour l'oxygène. Ça n'a pas été très bon pour moi, la première fois. La gym, c'était faire des mouvements pour l'équilibre, la respiration, etc. La relaxation, c'était apprendre à respirer et à se détendre. Mais moi, la détente, ça ne marchait pas. Les premières promenades que j'ai faites, c'était dans le parc. Je me suis vite ennuyé et j'ai demandé si l'on pouvait sortir du centre. On m'a dit que oui. Je sortais toujours avec mon bonbon à oxygène. J'ai pris la route qui descendait et allait dans la direction de Chartillon. Il y avait des murs. Je descendais sans me rendre compte qu'il fallait remonter, tout en mangeant des murs. Une voiture s'arrête près de moi. C'était une infirmière. Elle a dit de faire attention qu'après il fallait remonter. Qu'il fallait remonter pour s'en retourner. Remonter cette route. J'ai remonté cette route épuisé. J'ai mis plus d'une heure pour y arriver et pourtant j'étais loin de Chartillon. Puis j'ai pris une route en face du centre qui allait dans un cul-de-sac, mais agréable, parce que c'était comme un chemin qui allait dans une forêt, cette route. Puis j'ai pris en plus un chemin qui allait dans une vraie forêt, où sur le plateau de cette forêt, on dominait toute la vallée. C'était très beau. Un après-midi, j'ai rencontré dans cette forêt une femme qui faisait son footing avec son chien. Je ne l'ai pas reconnue. C'était une infirmière du centre. Au lieu de passer son chemin en se disant « Zut, c'est un malade », elle m'a parlé gentiment, montré dans la forêt un lieu où on stockait du temps du château la nourriture. Chaque fois que je l'ai vue, au centre, elle me disait bonjour. Tout le service, médecins, infirmières et kinés, était très gentil. Au fur et à mesure des jours, je marchais de mieux en mieux. J'allais facilement plus loin, comme à Chartillon et même plus loin. Je suis allé aussi à Charnay, etc. Après quelques semaines, on m'a enlevé l'oxygène par étapes. Dans la chambre, d'abord, la nuit et tout le temps, mais avec un contrôle, même la nuit. Nous étions pesés tous les 15 jours, lundi au lever. La tension souvent, la température plusieurs fois par jour. J'avais entre 35 et 36. L'oxygénation de l'air dans le corps aussi très souvent était contrôlée, à l'effort et sans effort. J'avais un voisin, un vieux monsieur très malade. Cet homme, n'était pas de sa faute, mais il crachait constamment. Et ça me dégoûtait de l'entendre et de le voir. Il crachait dans la petite boîte en plastique bleu. Sa famille venait souvent le voir et lui apportait des fruits, gâteaux, qu'il ne mangeait pas et laissait pourrir sur sa table ou dans son placard. Il regardait souvent la télévision, mais zappait constamment. Moi, je ne le regardais pas. Il aimait la corrida et regardait le soir sur Canal+. Sa famille était très gentille. Sa fille m'a dit qu'il était perdu et qu'il ne fallait pas faire attention à ce qu'il disait et faisait. Je comprenais et ne lui en voulais pas. Puis un jour, il est parti, pas guéri, mais on ne pouvait rien faire pour lui de plus. Alors on l'a fait entrer chez lui. Je suis resté une journée seul dans ma chambre, bien heureux, oui, bien heureux, dans ma chambre 121. Malheureusement, on a pris mon lit et déménagé dans une autre chambre, la 118, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour les femmes. Il fallait une chambre pour deux femmes. La chambre où l'on m'a mis avait déjà un malade. C'était un vieux monsieur très maigre. Ce monsieur ne crachait pas, ou très peu, mais faisait ses besoins dans son lit. Il le disait lorsqu'il le faisait au lieu de sonner pour faire venir l'infirmière. Il le faisait comme ça. La chambre sentait constamment mauvais. On le nettoyait constamment, même la nuit. Et moi, j'étais là, dans cette puanteur, et ne regardais pas. Le vieux, ça ne le gênait pas. Il plaisantait avec les infirmières pendant qu'elles le nettoyaient. La nuit, j'étais réveillé à cause de son nettoyage et de la puanteur. Alors, je passais la plus grande partie de ma journée hors de ma chambre, dans la salle commune, sortant de ma chambre à 7h30 et y retournant à 9h. Sortais constamment la journée pour faire des promenades. Pour les repas, j'étais à côté d'un homme très gentil. Pour les repas, entre parenthèses, on pouvait tous les prendre dans la chambre. Mais moi, je pouvais pas prendre un repas dans la chambre, alors ça sentait mauvais. Alors, je les prenais dans la salle commune. Pour les repas, j'étais à côté d'un homme très gentil, qui a eu des malheurs. Son fils est mort, sa femme, la maladie d'Alzheimer, et lui a perdu la vue parce qu'il est allé sur un glacier sans ses lunettes de soleil. Il avait comme voisin de chambre un militaire de carrière qui avait été commandant l'Indochine, l'Algérie, etc. Il racontait ses guerres, la guerre d'Algérie surtout, sans se rendre compte qu'il gênait les gens. Cet homme est venu avec la bouffe, confiture, gâteau, etc., etc. Il a même amené sa bonbonne. Il est au régime diabète et se goinfre de sucreries dans sa chambre. Un vendredi, sans prévenir, il est parti en voiture et est rentré que le lundi. Un matin, le vieux monsieur demande à être servi pour son petit déjeuner parce qu'il allait faire du vélo. La femme le sert et s'en retourne. Le militaire prend une crise, dit qu'on l'a servi le vieux et pas lui. Alors il décide de s'en aller. Mon voisin de lit, lui aussi, était militaire de carrière. C'était un engagé à 18 ans, en cachant qu'il avait un œil mort. Son œil est mort à cause d'un accident qu'il a eu à l'usine. Il a fait une école d'officier, mais ça ne lui a pas plu parce qu'il préférait être avec les deuxièmes classes. Mais lui était gradé. Il a fait la guerre, mais n'en a parlé et a fini à Desgenettes dans un bureau qui s'occupait du ravitaillement. Pour lui, rien ne valait Desgenettes. Il avait été hospitalisé avant de venir au centre. Grande chambre, il disait qu'il avait une grande chambre, forte fenêtre, etc. Ne mangeait pas, ne voulait ni faire du fauteuil, ni marcher. Alors, on l'a ramené à Desgenettes. Sa femme qui venait le voir était une femme de tête. Lorsqu'elle venait, elle rangeait tout, aérait la chambre, etc. Une fois qu'elle est partie, je me suis trouvé seul dans la chambre. Ouf! Une fois qu'il est parti, je me suis retrouvé seul dans la chambre. Ouf! Jusqu'à mon départ, c'est-à-dire une semaine. Je faisais mon lit, moi-même. À la salle commune, je remplissais les carafes et les enlevais en les vidant. Dans la salle commune, il y avait une petite mère mémé, toute maigre et gentille. La plupart des gens étaient gentils. Un homme m'a même appris à jouer à un jeu de chiffres avec des cases. Quelques personnes fumaient, malgré que c'était interdit et dangereux à cause des bonbonnes d'oxygène. Je prenais du poids, mangeais avec appétit. Pour le petit déjeuner, 2 morceaux de pain ne suffisaient pas, il m'en fallait 5. Le médecin qui venait dans les chambres tous les lundis matins m'a dit que j'allais partir le 18 septembre 2007. Je me suis trouvé tout drôle d'apprendre de rentrer. Après tout ce temps, j'avais peur. J'avais encore 10 jours au centre. J'avais mes habitudes là-bas. Les jours passaient vite, mais j'ai oublié de vous dire, avant ça, j'ai appris la mort de mon père par ma famille qui est venue me voir. Il avait 87 ans. On l'a trouvé chez lui, à terre, encore en vie, et il est mort à l'hôpital. On l'enterrera le jeudi. J'allais voir l'infirmière pour lui demander la permission de sortir pour l'enterrement de mon père. Elle regarde sur son papier et me dit que j'avais déjà demandé la permission de sortir jeudi. Je lui dis que c'était pas pour jeudi mais dimanche. Le hasard avait déjà prévenu ma sortie. On est venu me prendre pour l'enterrement. Je suis allé qu'à la messe, mais pas au cimetière. Mon père, je n'ai pas vraiment connu. Mon père, qui n'a pas une vie heureuse, ma mère ne l'aimait pas et lui l'aimait. Je suis passé à côté de lui. Je n'ai rien su sur lui. J'ai appris qu'il traduisait des livres français en anglais et bien d'autres choses. Mon père s'était retiré du monde et de sa famille. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.